Kaesong, c'est un petit peu le cordon ombilical entre les deux Corées. C'est le seul site qui permettait de maintenir un semblant d'échange entre les deux pays. À l'échelle de l'économie sud-coréenne, ça ne représente pas grand-chose. En revanche, pour la Corée du Nord, c'était effectivement une manne financière absolument considérable, gigantesque, et on peut dire d'une certaine manière que c'est ce qui fait vivre en grande partie l'économie nord-coréenne aujourd'hui, si on exclut bien sûr les relations grandissantes avec la Chine. Donc il y a effectivement, côté nord-coréen, une prise de risque qui est quand même assez forte. En décidant de geler les activités de Kaesong, on va se tirer une balle dans le pied, dans le sens que c'est du côté nord-coréen que l'on va payer le prix fort de cette mesure.
Au-delà de l'escalade verbale, au-delà des bruits de bottes, le régime nord-coréen a-t-il réellement conscience qu'il ne peut redresser son économie sans recourir aux investissements étrangers ?
Alors, il faut savoir que Kim Jong-un s'est aussi illustré depuis son arrivée au pouvoir par la mise en place de réformes économiques, un projet assez ambitieux, avec évidemment le soutien de son oncle Jeon Song-taek, qui est le véritable régent du régime actuellement. Ils se sont lancés dans une tentative de reproduction du modèle de développement chinois du début des années 80. Donc on a une stratégie qui est un petit peu à deux volets de la part du régime actuel. D'un côté, on va chercher à, je dirais, séduire les réformateurs au sein du Parti des travailleurs au pouvoir, en mettant en place un certain nombre de réformes économiques et en essayant de développer l'économie de ce pays qui en a effectivement grand besoin. Et puis de l'autre, on va rassurer les milieux conservateurs en disant non, on ne va pas céder et ces réformes économiques ne signifient pas en aucun cas que le régime va céder du terrain sur son caractère autoritaire.
Pyongyang cherche en quelque sorte à obtenir une aide financière de l'étranger tout en ne lâchant rien.
C'est exactement cela. On a vraiment une main tendue de la part de Washington. Du côté nord-coréen, visiblement, on n'est pas satisfait de cette condition posée par le secrétaire d'État américain. On veut rester sur sa position et, d'une certaine manière, mener la danse et imposer les règles du dialogue qui devra, d'une manière ou d'une autre, être entamé dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. En cela, on n'a pas de véritable changement dans la stratégie qui est celle de Pyongyang depuis la fin de la guerre froide et de manière plus forte encore depuis une dizaine d'années, à savoir qu'on va refuser toute forme de concession et afin de refuser ces concessions, on va systématiquement élever le niveau de la menace et pratiquer ce que l'on appelle en stratégie la stratégie du fou, à savoir faire croire à l'autre que l'on est prêt à aller jusqu'au bout et jusqu'à une forme de suicide collectif.
Le nouveau régime va-t-il aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à sacrifier son peuple, son économie ?
Je pense sincèrement que c'est assez peu probable. Le régime nord-coréen sait très bien qu'une guerre dans la péninsule se soldera inexorablement par une défaite de Pyongyang. Et cette défaite supposera, de manière tout aussi inexorable, la disparition, la chute du régime nord-coréen. Dès lors, quel intérêt pour Kim Jong-un de se lancer dans une offensive ? Je crois que les risques qui sont pris actuellement par Pyongyang sont extrêmement calculés. C'est une stratégie difficile, c'est une stratégie dangereuse, mais c'est une véritable stratégie.